Il fallait être sacrément visionnaire en 2006 pour créer à Castres une école d'ingénieurs dédiée au métier de la e-santé. L'agence du numérique en santé telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas encore, le dossier médical personnel n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Bref, la demande en compétences techniques en e-santé était surtout portée par les établissements de soins et les entreprises. Un peu plus de 15 ans après, où en est-on ? Comment une école d'ingénieurs comme l'école ISIS, avec un fort positionnement local, s'inscrit aujourd'hui dans un contexte national, celui de la e-santé, qui a beaucoup, beaucoup changé ? Comment continue-t-elle à innover face à la concurrence d'autres écoles et à attirer des étudiants et étudiantes de talent ? Et quel est le rôle de ses partenaires dans son succès ? Pour répondre à ces questions, l'invité de cet épisode du podcast est Cyril Klein. Cyril Klein est le directeur de l'agence conseil Hall 1. Il a été co-dirigeant du MIPI, l'un des gros acteurs industriels des systèmes d'information hospitaliers. Mais surtout, il est le président du conseil de gestion d'ISIS. Bonjour Cyril Klein.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Enfin, je dis merci de nous recevoir. On est sur le campus de ISIS aujourd'hui. Vous êtes président du conseil de gestion de l'école. Il y a 15 ans, la e-santé, vraisemblablement, ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui, en termes d'importance dans les usages, en termes d'importance dans la politique même gouvernementale. Et malgré tout, il y a cette vision d'un groupe de gens, de partenaires, de se dire « nous, on va former des ingénieurs dédiés au secteur de la e-santé ». Vous pouvez nous remettre un peu dans ce contexte-là et nous dire à quoi ressemblait la e-santé à ce moment-là ?
Je suis ravi, merci de votre question. Je suis ravi de vous accueillir sur ce campus que je trouve magnifique. Elle est née d'une intuition, cette école. Il y a 15 ans, la e-santé, c'était une e-santé de contrainte. Le numérique en santé, si vous en parlez aux soignants il y a 15 ou 20 ans, ils vous expliquent que ce sont des contraintes réglementaires, l'obligation de saisir des éléments, l'obligation de remonter des indicateurs nationaux. Et finalement, la e-santé, ça ne les aide pas à prendre en charge les patients. Mais il y a quelqu'un qui a une intuition, Bernard Rigaud à l'époque, qui fonde l'école il y a 15 ans, et qui se dit qu'il y a une vraie spécificité dans l'informatique de santé. Et au-delà de former des étudiants qui soient compétents dans le numérique, ce serait intéressant d'avoir une double casquette, des gens qui comprennent le système de santé, ses enjeux, parce que je pense que le numérique peut demain être un levier. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la e-santé a totalement changé avec des nouveaux axes, les objets connectés, la cyberdéfense, l'IA, le big data, enfin, on pourra en citer énormément. Et donc l'école est dans un moment où elle doit se renouveler et puis aussi s'ouvrir vers les autres formations. On a en ce moment des partenariats avec l'université et de Montpellier et de Toulouse. Et ces partenariats avec ces deux facs montrent bien le positionnement très particulier de cette école à Castres au cœur de son écosystème.
Alors parlons de ça justement. Donc d'abord, il faut peut-être parler des partenaires et des gens qui sont des institutions, des entreprises qui font partie du conseil de gestion dont vous êtes le président. À petite échelle, à l'échelle de l'école, c'est finalement des représentants de tout l'écosystème de la e-santé.
Ouais, ça c'est une vraie réussite et ça je m'en félicite tous les jours de présider ce conseil de gestion parce que il est représentatif vraiment de ce qu'on souhaite sur l'ouverture de l'école à son territoire et à l'ensemble de l'écosystème, encore une fois. On va retrouver à l'intérieur du conseil de gestion des institutionnels. On a l'Agence régionale de santé Occitanie. On va retrouver des hospitaliers, avec évidemment le centre hospitalier de Castres, hein, qui est un établissement de taille moyenne et extrêmement moderne et tourné vers le numérique depuis plusieurs années. Mais on va aussi retrouver le CHU de Toulouse. Ça démontre à la fois l'ancrage de l'école sur son territoire et puis son ouverture, puisqu'on se situe à la frontière de Toulouse et de Montpellier, de l'Occitanie Est et Ouest. On va retrouver des représentants du territoire avec la Technopole Castres-Mazamé, le syndicat mixte et puis le tissu industriel qui est très présent, avec quelques grands noms de la e-santé qui sont là. Et finalement, cet ensemble-là, ça donne une cohérence et on retrouve toutes les couleurs de la construction de l'avenir de la santé de demain. Et le rôle du conseil de gestion, c'est justement de tracer une stratégie pour l'école. Et le fait d'avoir tous ces acteurs-là, institutionnels, industriels, territoriaux, c'est une force incroyable pour l'avenir de l'école.
Est-ce que c'est possible de continuer à exister entre ces deux grands pôles, Toulouse et Montpellier? À Montpellier, l'Université de Montpellier vient d'ouvrir un cursus, une école, même l'école du numérique en santé, ou de la santé numérique, je ne me souviens plus exactement du nom, qui vise à former 5000 étudiants par an, ce qui est quand même très ambitieux. Comment coexister?
Alors, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Vous me tendez la perche sur quelque chose de très intéressant. On a porté avec l'ensemble des partenaires du conseil de gestion un projet stratégique en ce moment et on s'est posé la question justement de la place de l'école. C'était vraiment le moment où il fallait qu'on se pose la question non seulement de l'adéquation entre ce qu'on proposait et les étudiants qu'on formait et puis le besoin sur le terrain, hein, l'employabilité, mais aussi la place sur le territoire et la relation avec ces grandes universités. Vous parlez de Montpellier avec ESN by UM, hein, un très bel objectif d'université tournée vers le numérique. Mais il n'y a pas que, il se crée des écoles à peu près partout. Mais de toute façon, le besoin est tel qu'il y a de la place pour tous, il y a de la place à condition de collaborer. Aujourd'hui, pour faire simple, un industriel qui ouvre 100 postes en numérique en santé, il n'en trouvera pas plus de 40. C'est à peu près, pour vous donner une idée, du déficit et de la pénurie en termes d'experts en numérique en santé. Et après, l'ISIS va quand même mettre en avant sa carte. On a quelques points extrêmement forts. Alors, on ne forme pas des milliers d'étudiants. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'ingénieurs qui sortent tous les ans. L'objectif dans le projet stratégique ISIS 2030, on a déjà des engagements vis-à-vis de l'État d'arriver à 75 dans 4 ans. Et pour ISIS 2030, le projet est de sortir des promotions d'une centaine de diplômés par an. Mais vraiment des experts purs du système de santé et du numérique. D'ailleurs, on va plutôt parler de santé numérique que de numérique en santé. Ça paraît une anecdote, mais dans la stratégie de l'école et dans les contenus qui seront proposés, ce n'est pas une anecdote.
Quelle différence ?
Alors, en fait, l'idée de l'école, quand elle est née, c'était de faire une école de l'informatique et du numérique adaptée au secteur de la santé. Donc, ils avaient, les étudiants, les premières années, des cours dans lesquels ils apprenaient un petit peu la constitution et le fonctionnement du système de santé. La cible d'ISIS 2030, c'est que cette double casquette qu'on met en avant soit réellement à 50-50. On va mettre en place des indicateurs et on veut que les étudiants reçoivent autant d'heures de numérique que de témoignages de soignants, de professionnels de l'hôpital, de professionnels de la santé libérale, du médico-social, qui viennent leur parler du système de santé. Moi, je souhaite vraiment qu'on soit en capacité de sortir des étudiants à 50-50. Et les autres formations aujourd'hui ne sont pas orientées de la même manière. Nous, on veut vraiment sortir des experts du système de santé. Et pour ça, on va structurer aussi en parcours. Ça va être une nouveauté pour les années à venir. On va structurer 3 parcours différenciants que les élèves pourront choisir et qui vont un petit peu donner des couleurs et des thématiques sur leur futur métier.
Pour rester sur le cursus et surtout sur l'employabilité, comment est-ce que les partenariats locaux aident à tisser des liens avec le secteur industriel pour la future employabilité des étudiants ?
Alors on en a plusieurs et c'est très intéressant parce que le fait d'avoir 2 établissements de santé, ça nous ouvre un réseau très important au travers des directeurs informatiques et des DG des établissements de santé pour nos étudiants. Mais il faut être honnête, l'employabilité elle est essentiellement dans le milieu industriel, start-up ou grand compte. Et là on a à la fois la Technopole Castres-Mazamet qui est présente et qui porte l'université de la e-santé à Castres, qui est un outil en partenariat avec l'ISIS extrêmement important, puisqu'on a les décideurs, les institutionnels, les industriels qui viennent réfléchir pendant 3 jours tous les ans sur la thématique et l'avenir de la e-santé. Et l'école est au cœur de ce maelstrom et de finalement ce think tank que devient l'université d'été de la e-santé. Et donc la Technopole nous apporte cette richesse-là. Et puis tous les industriels qui sont là sont vraiment extrêmement impliqués. Ce sont des gens qui donnent du temps, de la réflexion, des orientations et qui nous permettent d'avoir non seulement le besoin immédiat, mais ces gens-là prennent le temps de réfléchir avec nous aux besoins de demain. Parce que quand on forme des étudiants aujourd'hui, c'est ceux qui seront en poste dans 7, 8, 10 ans. Donc c'est très important qu'on anticipe, et c'est très difficile dans l'enseignement supérieur, par rapport à un métier aussi fluctuant que le numérique et que les priorités du numérique. Personne n'aurait dit il y a 5 ans, l'IA était balbutiante, on se posait la question. Aujourd'hui, il n'y a pas un industriel de la santé qui n'a pas un département IA. L'émergence de ChatGPT a un peu accéléré les choses, mais... Voilà, donc c'est aussi la nécessité de s'adapter et le fait justement d'avoir un conseil de gestion qui ne se concentre pas uniquement sur l'enseignement supérieur mais qui est ouvert sur le monde, c'est extrêmement important.
À défaut de pouvoir prédire ce que sera la e-santé dans les 15 prochaines années, quel est le plan d'ISIS pour les 5 à 10 ans à venir ? Quelles sont les orientations, les grandes orientations que vous voulez mettre en place ?
Alors, dans les grandes orientations, il y a d'abord une question de dimensionnement. Hein. Il y a un seuil qu'il faut qu'on atteigne d'une centaine d'étudiants diplômés par an. Il y a cette coloration santé qu'on veut encore renforcer très fort. Et il y a ces filières. Et dans ces filières, on a orienté pour les prochaines années une filière IA Big Data. Le traitement derrière la donnée de santé et les données massives sont un des éléments qui bouleverser le numérique en santé demain. Une seconde filière pour laquelle il y a un besoin énorme, hein, qui est la construction de solutions, et je dis bien solutions, pas uniquement logiciels, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de la conception logicielle, mais ils vont travailler aussi, ces gens-là, beaucoup sur l'objet connecté, puisque dans la médecine préventive, la télésurveillance et les objets connectés vont prendre de plus en plus de place. Et il y aura une filière expertise de l'organisation des soins et de la santé qui permettra de former des étudiants qui iront analyser auprès des soignants pour inventer les solutions de demain et qui seront au plus près des soignants pour concevoir ça. Et si je dois donner une couleur aussi de ce que sera ISIS 2030, je pense qu'on est en train d'anticiper finalement qu'est-ce que le numérique en santé. Et on se pose des questions, ça va très très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, le sport santé, ça fait partie du numérique en santé? Quand vous avez à votre poignet une montre qui vous aide à calculer les pas, votre sommeil, etc., est-ce qu'on est dans la santé connectée? Alors en France, on dit non, pas encore aujourd'hui. D'autres pays considèrent ça déjà comme le numérique en santé. Donc c'est très important de pouvoir regarder extrêmement loin et finalement de se dire que les étudiants qu'on veut former ne sont pas là uniquement pour faire de la prise en charge curative de patients, mais réfléchir à tout ce que le numérique peut apporter pour améliorer la santé de tout un chacun des concitoyens. Et il y a un autre enjeu, je voudrais aussi finir là-dessus, qui nous paraît très important. On essaye de mettre une dimension éthique et humaniste à l'ISIS, puisque le numérique apporte énormément de solutions, mais c'est aussi un problème. C'est un problème dans son impact sur notre écosystème et la planète. Et donc, on veut aussi sensibiliser les étudiants à un numérique responsable, responsable sous deux axes. Sur l'axe environnemental, comment on conçoit des choses qui soient le plus économes possible et le moins impactant possible, mais aussi responsable au sens social, comment on n'oublie personne, comment les plus fragiles, les plus isolés, ceux qui maîtrisent le moins ces technologies, ne soient pas écartés de la qualité de la prise en charge. Donc ça, c'est aussi très important de sensibiliser nos étudiants là-dessus.
Comment est-ce qu'on fait venir, peut-être pour une dernière question, comment est-ce qu'on fait venir plus de santé dans une école d'ingénieurs? Donc il y a quand même un shift culturel. Comment est-ce qu'on s'ouvre davantage au milieu de la santé? Je ne vous pose pas la question sur l'aspect accessibilité, mais la même question aurait très bien pu être posée. Je vais rester sur la santé et l'ingénierie, et un peu moins sur l'éthique de la santé, l'éthique du numérique et l'accessibilité. Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on sort des murs pour aller vers la santé? Est-ce que la santé vient à vous? Comment ça va se passer?
C'est une très très bonne question. Alors... Déjà, on a le partenariat avec l'hôpital de Castres qui est extrêmement fort et je dois saluer l'engagement de Philippe Péridon, son directeur, qui suit l'école depuis longtemps et qui met les moyens pour que ces professionnels de santé puissent accueillir des étudiants à l'hôpital de Castres, qui est juste à côté, et puissent intervenir aussi à l'intérieur de l'école, soit sur des cours, soit sur des travaux dirigés. Donc effectivement, il faut qu'on fasse venir des professionnels de santé à l'intérieur des murs. Et pour ça, il faut qu'ils y trouvent aussi un intérêt. Ça veut dire qu'on doit convaincre, et ça a été aussi mon travail, d'aller chercher auprès du CHU de Toulouse et de leur dire « Ok, je vous ai entendu, je sais que vous voulez des experts du numérique qui connaissent le mieux votre métier, mais c'est donnant-donnant. Moi, je vous les prépare avec les équipes de l'ISIS, avec la direction de l'ISIS. Vous venez et vous transmettez votre savoir, vous partagez ça. » Et enfin, il y a un dernier point sur lequel on mise beaucoup d'espoir. On est avec le centre hospitalier de Castres et l'école ISIS partenaire pour créer un tiers lieu d'expérimentation sur le département et sur le site de Castres. On espère très fortement y arriver. C'est un appel à manifestation d'intérêt pour lequel on aura bientôt des résultats. Et on espère créer en fait un espace qui permettra de faire rencontrer les soignants, des cohortes de patients, des représentants d'associations de patients, des industriels, des start-up et des enseignants-chercheurs de l'ISIS. Et l'idée, c'est de mettre en place et de faire foisonner ensemble ces populations pour imaginer les solutions de demain. Et là, on est exactement dans ce que vous avez dit. Comment on trouve des solutions pour que finalement, cette porosité entre le monde du soin et le monde de l'enseignement supérieur et de l'industrie puisse se faire. Et je fonde beaucoup d'espoir sur ce tiers-lieu d'expérimentation qui va mettre tout le monde ensemble au même endroit.
Ben on croise les doigts pour une réponse positive. Crois savoir que vous l'aurez d'ici la fin de l'année.
Oui, c'est ça. On l'aura d'ici la fin de l'année. Après, l'appel à projet, c'est une incitation, c'est une aide à structurer, c'est des financements. Évidemment qu'on en a besoin. Mais je crois que la dynamique sur le territoire est telle que, de toute façon, cette idée-là, on fera en sorte de la conduire d'une manière ou d'une autre. On y arrivera parce qu'il y a vraiment en train de se créer depuis quelques années cette conjonction sur le territoire de Castres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne du podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Les podcasts de l'Université de la e-Santé et de Castres Mazamet Technopole sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. À bientôt.